Voilà, si vous avez la Bible, je vous invite à l'ouvrir avec moi dans l'Évangile selon Luc. Et si un ami était venu sans la Bible, vous pouvez faire un petit signe, peut-être un voisin, une voisine, généreux, généreuse, pourra suivre avec vous la lecture. Luc chapitre 16. Vous avez peut-être reçu ces derniers temps ce beau prospectus qui annonce ces réunions, celles-ci et celles qui vont suivre dans les trois prochains jours, et qui nous pose deux questions importantes, deux questions fondamentales. Déjà, quel avenir pour l'humanité? Puis la deuxième, c'est « et si la Bible avait raison ?» Alors, je ne prétends pas pouvoir vous donner la réponse avec tous les détails, tous les éléments, mais on va essayer de réfléchir à notre avenir, si vous le voulez bien. Et vous savez, la Bible dit que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Ça, c'est une pensée qu'on veut refouler. On aimerait penser, alors qu'on sait bien que ce n'est pas le cas, mais on aimerait penser qu'on est éternel. On aimerait penser que la vie ici-bas ne se terminera pas. Quoique, malheureusement, il y a de plus en plus d'hommes et de femmes, souvent des jeunes, mais des vieillards également. Parfois dénués de tout, privés de tout, seuls. Et bien d'autres fois, comblés matériellement, entourés de leur famille, qui considèrent leur vie et qui disent que l'existence n'a plus aucune valeur, aucun sens. Et eux, ils préféreraient que ça s'arrête rapidement. Je voudrais cet après-midi, et au cours des prochaines réunions qui suivront, si vous le voulez bien, qu'on ne refoule pas la pensée de l'éternité, mais qu'elle reste bien présente. Et que si on n'arrive pas à obtenir toutes les réponses en rapport avec cette question qu'est l'avenir pour l'humanité, quoique la Bible nous donne des réponses très claires, on puisse au moins au sortir de ces réunions être fixé sur l'avenir de son âme, sur son avenir éternel. Alors je vous propose de faire une lecture qui n'est pas là pour casser l'ambiance, mais pour nous faire réfléchir à notre éternité. Luc 16, si vous y êtes, à partir du verset 19, c'est Jésus qui est en train de parler. Ce n'est pas une image, ce n'est pas une parabole. Voilà ce que Jésus dit. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Même des chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi !» Et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, que Lazare a eu les maux pendant la sienne, maintenant il est ici consolé, toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit, je te prie donc, père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai cinq frères. Et c'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Et il dit, non, père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscitait. Amen. Ce récit de l'Évangile semble alimenter un peu plus le cliché courant qui associe d'une part la pauvreté au salut de l'âme et d'autre part les richesses à la perdition éternelle. Mais il n'en est rien, en fait. Le fait est que Jésus l'a dit, les richesses constituent bien souvent un obstacle à l'entrée dans le royaume de Dieu à cause des soucis, à cause des préoccupations que ces richesses peuvent engendrer. Mais ce qui compte réellement, ce n'est pas d'être riche ou pauvre, et ce ne sera pas mon propos cet après-midi. Ce qui compte réellement, c'est d'être prêt à entrer dans l'éternité. L'éternité, c'est ce dont je voudrais m'entretenir avec vous et considérer la difficulté de cette tâche qui m'incombe. On doit parler de votre éternité en quoi ? 30, 35 minutes. Je voudrais vous amener, si vous ne l'avez pas encore fait, à réaliser que c'est maintenant que se règle la grande question de votre vie. Quelques minutes. Cette réunion ne va pas durer des heures. Et pourtant, au cours de ces quelques instants simples en apparence que nous passons, une destinée éternelle peut complètement changer. Alors je voudrais vous proposer d'être pleinement attentif, s'il vous plaît. Je crois que ce récit constitue un avertissement solennel pour chacun et il nous offre de précieuses leçons sur l'éternité. Premièrement, nous apprenons que les apparences sont trompeuses, mais qu'à la lumière de l'éternité, ce que nous sommes vraiment sera révélé. Et rien que cela doit déjà en faire trembler quelques-uns parmi nous. Dieu te connaît. Tu peux paraître, tu peux masquer la réalité, tu peux maquiller la vérité, mais la Bible dit qu'il n'est rien de caché qui ne doit venir à la lumière. Un jour, ce que tu es vraiment sera révélé aux yeux de tous. Et à la lumière de l'éternité paraîtra ce que tu es et ce que tu auras fait de l'opportunité que Dieu te donne aujourd'hui encore de venir à Christ. Regardez ce texte. S'il y avait le riche, il menait joyeuse et brillante vie. Ça, c'est une expression pas très moderne pour dire qu'il faisait la fête, il jouissait en tout cas d'un style de vie assez soutenu. Sa richesse lui permettait de se payer les meilleurs restos, d'inviter ses amis. Il était célèbre, j'imagine qu'il roulait dans les plus belles voitures, qu'il habitait les plus belles maisons du secteur. Il faisait certainement la une des journaux. Le riche menait joyeuse et brillante vie. Et puis de l'autre côté, le tableau est tout à fait différent, le contraste est énorme. Il y a un pauvre homme, un misérable homme, Lazare. Alors d'un côté, on avait sous les yeux un exemple notoire de réussite, et puis de l'autre côté, le portrait de la déchéance et de la misère. Mais que les apparences sont trompeuses. L'homme richement vêtu s'est retrouvé en fait complètement dépouillé dans l'éternité. Dans les livres de l'Apocalypse, il y a quelques paroles que Jésus a prononcées. Voilà ce qui est écrit. Tu dis, je suis riche, je n'ai besoin de rien. Mais tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Et peut-être qu'il y a quelqu'un parmi nous cet après-midi qui dit, je suis suffisamment riche, moralement, intellectuellement, spirituellement, familialement, matériellement, je n'ai pas besoin de votre évangile. Cela est peut-être bon pour les faibles, bon pour ceux qui ont besoin d'une béquille pour traverser cette existence aride et difficile. Moi, je n'en ai pas besoin. Et Jésus te dit, tu dis que tu es riche, tu dis que tu as ce qu'il faut, tu dis que tu as... Mais tu ne sais pas. Tes richesses, tes bonnes œuvres, ta religion, ta propre justice, ta sincérité même, tout cela n'est pas suffisant pour cacher la honte de ton péché. Dans ce même chapitre, au verset 15, Jésus a fait un reproche, a adressé un reproche à ses contemporains, je crois qu'il l'adresse à notre société aujourd'hui encore. Il dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît votre cœur. Je voudrais dire à quelqu'un cet après-midi, mon ami, ne cherchez pas à paraître, soyez honnête. Si cet après-midi on pouvait avoir un moment de, vous savez comme on dit, bas les masques, où on ne va pas chercher, on ne va pas se voiler la face. On va être honnête, parce qu'on comprend qu'il n'est pas question ici d'une adhésion intellectuelle à un courant religieux. Il n'est pas question de changer d'un état religieux pour devenir un de ces chrétiens évangéliques dont on parle souvent à tort et à travers. Non, là on parle du salut de l'âme. Ici on parle d'être prêt à entrer dans l'éternité. Avec ce récit, on apprend que les obsèques d'un homme peuvent être pompeuses ou au contraire insignifiantes, voire inexistantes. Ce qui compte, ce n'est pas le prix du cercueil, mais c'est la demeure qui nous attend là-haut. Vous l'avez lu avec moi, le pauvre mourut, le riche mourut aussi. Et oui, dans la vie, les richesses peuvent créer des différences, mais pas dans la mort. Et quoi qu'on en dise, quoi qu'il soit écrit et que nos gouvernements aiment bien rappeler, ce n'est pas vrai que tous les hommes naissent et vivent égaux. Nous le savons très bien. C'est un bel idéal. Il faut essayer de faire en sorte que cet idéal devienne réalité. Mais le fait est que ce n'est pas vrai. Les hommes ne naissent pas et ne vivent pas égaux. Par contre, dans un sens, ils meurent tous égaux. Et la Bible dit « poussière et retournant à la poussière ». Et même pour le plus riche d'entre nous, ce n'est pas de la poussière dorée. Les obsèques ont pu être grandioses, retransmises en direct à la télé, rassemblant tout un gratin de célébrités, de personnalités de l'époque. Mais le fait est que Lazare a eu le plus bel enterrement. Et d'ailleurs, ça n'a même pas été un enterrement. Car ce n'est pas dans la terre qu'il repose, mais dans la gloire. Nous l'avons lu, il fut porté par les anges. Alléluia. Ça, c'est l'espérance des vrais croyants. Un jour, le Seigneur viendra nous chercher. Il viendra nous prendre pour que nous soyons avec lui. Et ne vous y trompez pas. Souvenez-vous, les apparences sont trompeuses. Vous verrez peut-être, si le Seigneur tarde à revenir et que vous ayez l'occasion de passer dans un cimetière où on aura déposé notre dépouille, vous verrez peut-être une pierre tombale, vous verrez deux dates. Mais ne vous y trompez pas. Les vrais croyants ont une espérance de vie éternelle. Nous ne mourrons pas. Nous ne mourrons pas comme le reste des mortels, parce qu'il y a en nous un principe de vie. Nous en parlions ce matin, c'est la vie éternelle que Jésus donne à ceux qui croient en lui. Et vous voyez, s'il y avait eu un contraste flagrant, énorme, du temps de leur vie sur terre, ce pauvre, misérable, qui voulait se rassasier de quelques miettes, qui avait pour seule compagnie des chiens, et qui n'a pas eu d'obsèques dignes de ce nom. De l'autre côté, on avait un riche. Mais regardez, ce sont les anges qui sont venus et qui ont transporté Lazare. Les honneurs, les belles paroles, les oraisons funèbres, c'est bien beau tout ça. Et je préfère recevoir mes honneurs de Dieu lui-même et l'entendre lui-même prononcer les plus belles paroles qu'il ait donné à un homme d'entendre. Selon ce qui est écrit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Pour nous, les vrais croyants, la mort n'est pas la fin. Ce n'est qu'un passage dans ce à quoi nous avons véritablement été appelés à vivre. La vie éternelle ne commencera pas quand j'entrerai dans l'éternité. La vie éternelle commence à partir du moment où j'ouvre mon cœur à la grâce de Dieu, où Jésus-Christ devient mon sauveur. Cette vie éternelle en moi produit une vie abondante, une vie extraordinaire qui nous permet, comme on l'a entendu tout à l'heure, de traverser des épreuves qui n'épargnent personne, soit dit au passage. Mais avec une espérance tout autre, c'est qu'un jour, je verrai mon sauveur, je le connaîtrai comme j'ai été connu. As-tu cette espérance, mon ami ? Quand on enterre quelqu'un, on peut parler de son passé, de ce qu'il a accompli dans sa vie, mais ce qui compte vraiment, c'est son présent. Où est-il parti ? Vous avez peut-être déjà assisté à ces obsèques où ça m'est arrivé il y a quelques temps, je ne saurais pas vous dire, il y a peut-être un an et demi, d'un homme qui était réputé pour son penchant pour la boisson, et c'est peu dire. D'un homme qui était connu comme un coureur de jupons. Un homme qui avait été infidèle à maintes reprises. Et voilà que tout le monde était d'accord le jour de ses obsèques pour dire « Papa, tu as été formidable, tu as été un homme fidèle et bon. » Il n'y a pas de lieu de mensonge comme les cimetières. Le jour des obsèques, mais ensuite, avec tout ce qui est écrit, quand on lit ici, repose en paix. Mon ami, vous ne reposerez pas en paix si vous ne reposez pas en Jésus-Christ. Ne vous laissez pas tromper par les usages de ce monde. Et une fois encore, je le répète, ça peut être difficile d'entendre ça, mais ne refoulez pas cette pensée. C'est maintenant qu'il faut se préparer à entrer dans l'éternité. Ce qui compte vraiment, quand on assiste à l'enterrement de quelqu'un, c'est son présent. Où est-il parti ? Il est mort, oui, mais Mais où se trouve-t-il désormais? Alors je le répète, le prix du cercueil n'est pas important. Un cercueil en or n'arrangera en rien la condition éternelle de l'âme qui quitte cette terre. Avec ce récit, ce qu'on apprend également, c'est qu'un homme peut posséder tout en abondance ici-bas et pourtant se trouver complètement privé de tout dans l'éternité. Il était riche et il le montrait bien. Quand il arrivait en ville, il fallait que ça se sache. Il ne s'asseyait pas à la même table. Bon, s'il avait été ici, peut-être qu'il lui aurait fallu, je ne sais pas, une chaise, un trône, peut-être, je ne sais pas, quelque chose pour le mettre en valeur. Il était riche, il le montrait bien. Il pouvait se vanter d'avoir les moyens d'acheter et de posséder tout ce qu'il voulait. Mais remarquez qu'avec son argent, il n'a pas pu acheter son salut. Quel comble! De l'autre côté, on a Lazare. Lazare, qui n'avait pas un sou, mais qui a obtenu ce que les richesses de l'autre n'ont pu lui procurer. Le salut, ça ne s'achète pas. On ne va pas vous demander de sortir le chéquier dans quelques instants. Le salut ne s'achète pas. Et tout l'argent du monde serait insuffisant pour sauver ton âme. Ce matin, si vous étiez avec nous au cours du culte, nous l'avons entendu, cette lecture de ce merveilleux texte de la parole de Dieu qui nous rappelle que nous, les vrais croyants, nous n'avons pas été rachetés à prix d'argent ou à prix d'or, mais au prix du sang précieux de Christ versé sur la croix. Alors, à quoi sert-il de courir après les richesses de ce monde si elles ne peuvent te procurer ce qui est plus important? Jésus l'a dit en d'autres termes. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Il y a peut-être quelqu'un qui s'investit beaucoup dans son métier, dans sa carrière. C'est bien d'être sérieux dans son travail, mais que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Il y a peut-être un jeune, une jeune qui s'est projetée dans l'avenir avec toutes sortes d'attentes et une grande ambition. C'est bien d'avoir de l'ambition, mais aie de l'ambition pour ton âme. Car au dernier jour, c'est ce qui comptera vraiment. Est-ce qu'il ne serait pas temps de t'intéresser à ce qui a vraiment de la valeur? Gagner ta vie, c'est important pour te nourrir, pour nourrir ta famille. Mais ne cherche pas à gagner ta vie au point d'en perdre ton âme. Il y en a trop qui font ça, et vous le savez. Il y en a trop qui disent « il faut bien gagner sa vie, monsieur le pasteur ». Oui, mais pas à en perdre ton âme. Et il vaut mieux entrer, peut-être, un peu plus pauvre dans l'éternité, mais en ayant la véritable richesse, en étant sauvé. On apprend avec ce texte que celui qui aura négligé l'opportunité d'être sauvé n'aura plus que le souvenir et le regret de sa folie pour l'éternité. Ça, ce sont deux mots qui... Enfin, je ne sais pas comment vous l'avez lu tout à l'heure, mais je pense que... Ça a dû me faire trembler à plusieurs reprises quand je l'ai lu. Plus maintenant, je vous rassure, car maintenant j'ai cette espérance dont je parlais tout à l'heure, que je serais fou et insensé de vous prêcher ce message sans être moi-même prêt à entrer dans la présence de mon Dieu. Et je pense que ce message, à une époque, m'a fait trembler. Ces deux mots d'Abraham qui dit aux riches, « Souviens-toi. Souviens-toi. » Oh, que ce doit être terrible de se souvenir éternellement de sa folie. On comprend que la Bible nous parle de l'enfer comme d'un lieu de tourment et d'atroces souffrances. C'est que tous ceux qui y passeront l'éternité ne pourront oublier le pourquoi de leur perdition. Ils se souviendront. Le problème, c'est qu'il sera trop tard pour changer quoi que ce soit à cet état de perdition. Et ils se souviendront. Ils se souviendront à jamais de tout ce qu'ils auront fait et qu'ils ne pourront pas défaire. Ils se souviendront à jamais de tout ce qu'ils n'auront pas fait et qu'ils ne pourront plus faire. Ils se souviendront à jamais de toutes les occasions qui leur auront été données, mais qui n'auront pas été saisies pour être sauvés. Et je voudrais le dire solennellement, avec peut-être un sentiment d'urgence, si tu ne te convertis pas, un jour et pour toujours, tu te souviendras de cet après-midi. Tu te souviendras de ce message, tu te souviendras de ce chant tout à l'heure qui te disait « ne tarde plus ». Et la parole que je t'adresse et que tu refuses maintenant te hantera à jamais, faisant de ton éternité le souvenir perpétuel de ta négligence et de ta folie. Est-ce qu'il faut refaire une mise au point ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de penser à autre chose? Tu penses à ce que tu vas faire après cette réunion, tu espères que le prédicateur sera pas trop long, tu penses à cette semaine, tu as des rendez-vous, tu as du travail, des études. Non. Ne refoule pas la pensée de l'éternité. Écoute ce que le Seigneur est en train de te dire. Car il serait terrible que tu te souviennes pour l'éternité de ta négligence à l'écoute du message de l'Évangile. Tu dirais, certainement comme ce riche, j'y étais 4 rues de Seyssel ce dimanche après-midi. Quel fou j'ai été de ne pas croire. Quel fou j'ai été de dire, ah, ce sont des fables, des histoires pour les crédules. Cela soit bien clair, la Bible nous le montre, l'enfer n'a pas été préparé pour les hommes. L'enfer n'a jamais été dans la pensée de Dieu préparé pour les hommes. Dieu nous aime. La Bible dit que la volonté de Dieu, si vous vous posiez une troisième grande question qui pourrait figurer sur le prospectus, quelle est la volonté de Dieu pour ma vie? La volonté de Dieu pour votre vie, c'est que vous soyez sauvés. Alléluia. Dieu vous aime. Dieu ne fait exception de personne. Jésus a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Ça ne fait aucun doute. Lisez la Bible, c'est clair, c'est net, c'est précis. C'est pour Lazare, c'est pour le riche. C'est pour les hommes, c'est pour les femmes, quelle que soit leur condition, leur statut social, leur origine. Dieu vous aime, Dieu a prévu pour vous, pour nous, la gloire éternelle. Mais voilà, si tu refuses le seul moyen d'être sauvé du péché, si tu refuses le seul moyen d'être sauvé de ce péché qui te prive de la gloire éternelle, alors tu prends toi-même le chemin de la perdition éternelle. Avec ce texte, j'apprends également que, bien que les incrédules et les croyants cohabitent aujourd'hui, le jour vient où ils seront à jamais séparés. Est-ce que je peux insister un petit peu là-dessus aussi? Voyez, on est dans cette salle, regardez autour de vous, je ne sais pas combien on est, plusieurs dizaines. Il y a ici des chrétiens, il y a ici des non-chrétiens. Il y a quelqu'un qui est là peut-être pour la toute première fois parmi nous. Il y en a qui sont presque nés dans l'église. Il y a des enfants de chrétiens, il y a des gens qui n'ont pas du tout d'arrière-plan familial chrétien. On est ensemble dans cette même pièce. Certains sont croyants, sauvés, d'autres sont incrédules, perdus. Nous avons l'occasion d'échanger, de discuter, de débattre comme certains aiment tant le faire. Et puis il y a un prédicateur, il vocifère, il s'acharne, il essaie de vous convaincre, de vous convertir. Et il ne s'en cache pas. Nous voulons que vous vous convertissiez, que vous soyez réconciliés avec Dieu. Mais écoutez bien, le jour vient où il n'y aura plus ni débat, ni discussion. Le dossier sera définitivement clos. Votre cas, le mien, auront été réglés. Les croyants et les incrédules seront séparés. Les uns pour la vie éternelle, nous dit Jésus. Les autres pour le châtiment éternel, pour la mort éternelle. Alors considérez la chance, jeune homme, jeune fille, considère la chance que Dieu te donne d'être en ce lieu aujourd'hui. Et surtout, ne pense pas, ne t'illusionne pas. Ne pense pas que le fait d'être assis dans une église évangélique ou de bien s'entendre avec des chrétiens ou d'avoir un mari ou une femme ou un parent ou des enfants qui prient pour toi, que c'est suffisant. Non, la véritable question à laquelle il faut que tu apportes une réponse, c'est « Es-tu sauvé ?» Monsieur, madame, êtes-vous sauvé? On ne peut pas répondre à votre place parce que le salut est une affaire personnelle. Je vais un peu plus loin avec ce texte, on apprend que une fois qu'on est entré dans l'éternité perdue, il est trop tard pour faire marche arrière. Il y en a dont la prédication de l'Évangile ne parvient pas à éveiller la conscience. Ils sont durs, fermés, comme toi peut-être. Tu dis, parle toujours, tu m'intéresses, mon ami, si tu comprenais le dessein de Dieu à ton égard, si tu comprenais pourquoi Dieu insiste. Peut-être pour toi, depuis tant d'années, tu entends l'Évangile, tu reçois le témoignage et tu dis non. Alors toi, tu n'es pas fermé, mais tu dis plus tard. Ou un enfant de chrétien dit, je suis dans une famille chrétienne, ça suffit. Oh. Ceux dont la conscience n'est pas éveillée ici par la prédication de l'Évangile, s'exposent à un réveil terrible dans l'éternité. Terrible. Tu dis pas maintenant. Demain peut-être, plus tard. mais un jour il sera trop tard. Et un jour il sera impossible de faire marche arrière. La Bible dit qu'il est réservé à l'homme de mourir une fois, après quoi vient le jugement. Voilà, il n'y a pas plein de chances. Le purgatoire, c'est une pure invention de la religion. On n'est pas là pour accuser ou juger, mais il faut que vous le sachiez. Le prince de ce monde de ténèbres, le diable, est menteur. Jésus a dit, il est menteur, il est père du mensonge, et tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit, quand bien même il utiliserait parfois des parcelles de vérité biblique, c'est pour mieux tromper les hommes qu'il cherche à perdre. Tu as placé, monsieur, madame, vous avez placé votre foi dans un système religieux qui vous dit que vous aurez d'autres chances plus tard, qu'en fonction de la ferveur des prières qu'on adressera à votre égard, à votre intention, une fois que vous serez entré dans l'éternité, en fonction du nombre de cierges qu'on allumera, en fonction de la clémence ou de la miséricorde de votre Dieu, peut-être vous pourrez éventuellement être sauvé. Mais attendez, l'éternité, c'est pas une question trop importante pour qu'on se contente d'un peut-être ? Vous accepteriez de partir à l'autre bout du monde ? Si quelqu'un vous appelait et dit, écoute, peut-être une possibilité, à voir, hein, je te garantis rien, mais il y a peut-être une possibilité qu'on te trouve du boulot, mais tu quittes tout, là, et puis peut-être on te trouvera quelque chose, on verra. Vous accepteriez, vous, de faire ça comme ça? Et pourtant, vous êtes sur la voie, vous avez pris le chemin de la perdition éternelle, et vous acceptez de ne pas savoir où vous passerez l'éternité? Ce n'est pas une fois mort que la question de ton éternité devra être réglée. Et toutes les prières qu'on pourra faire à ton sujet seront vaines. Ce ne sont pas les morts qui ont besoin de prières. Ce sont les vivants. Et ça nous rappelle qu'il faut prier pour tous ceux qui nous entourent, afin que le Seigneur puisse se révéler à leur cœur. Alors là, on revient à ce texte et on voit le riche qui essaye de négocier. Allez, c'est pas grand-chose, c'est une affaire de plus pour ce businessman aguerri. Il espère pouvoir s'en sortir comme d'habitude. Il va essayer de conclure un marché avec Abraham. Il sait comment s'y prendre. Il sait négocier. Et il a passé sa vie à dire tu me donnes ça ? Je suis prêt à payer cash. Père Abraham, aie pitié de moi. Vous avez vu l'expression Père Abraham ? Ça sonne bien, hein ? Ça me fait penser à tous ces gens qui savent prier. Le savent, je le mets entre guillemets, avec de belles formules consacrées, avec des airs de Sainte-Nitouche. Mais là encore, permettez-moi d'être honnête, Dieu n'a que faire du blabla religieux. Nous devons être sincères et nous devons être sincères dans la vérité. La sincérité n'est pas suffisante. Souvent on se leurre, on dit « je suis sincère, Dieu me bénira ». Tu peux être sincère pensant que tu vas à Marseille, tu as pris l'autoroute pour Paris. Tu es sincère, mais tu es sincèrement dans l'erreur. La sincérité n'est pas suffisante. La sincérité dans la vérité, c'est ça qui est important. Il faut être sincère avec Dieu, parce qu'il regarde au cœur. Monsieur, la première fortune, tu dis Père Abraham, mais as-tu jamais cherché à comprendre la responsabilité qui t'incombait en tant que fils d'Abraham, c'est-à-dire d'avoir la foi d'Abraham ? Et toi, Français, Française, qui parle du bon Dieu, ne sais-tu pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance ? On l'a chanté tout à l'heure, Dieu est bon en tout temps. Mais Dieu est juste aussi. Ce qu'il a dit, ce qui est écrit, c'est ce qui se produit. La Bible a raison. La Bible a raison. La démonstration n'est peut-être pas très scientifique. On y reviendra au cours des prochaines soirées, si Dieu le permet. Mais on peut répondre d'une manière catégorique à cette seconde question. La Bible a raison. Et je vais te dire, et même si tu n'étais pas tout à fait sûr que la Bible n'a pas raison, la Bible a raison, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de quand même te préparer ? Je vais un peu plus loin, on va terminer dans quelques minutes pour prendre un moment et prier, demander à Dieu qu'il permette à quelqu'un de marcher maintenant sur la voie de la vie éternelle. On apprend avec ce texte que ceux qui n'auront fait aucun cas de la parole et de l'appel de Dieu se condamnent eux-mêmes à périr. Le riche parle de sa famille. Il dit « Abraham, j'ai 5 frères. Envoie-leur, s'il te plaît, un SMS. Envoie-leur un message. Envoie-leur un email, un pigeon. Je ne sais pas comment tu vas t'y prendre, mais envoie-leur un message afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Et d'ailleurs, si tu pouvais faire en sorte que ce Lazare, que j'ai passé ma vie à ignorer alors qu'il était à la porte de chez moi, si tu pouvais l'envoyer vers eux. » Parce que finalement, ce Lazare, il avait raison. Quand parfois, peut-être, je méprisais ou je me moquais ou je lui jetais 3 sous, ce qui n'est d'ailleurs pas dit dans ce texte. Et qu'il me disait, mais mon Dieu, pourvoira à mes besoins, j'ai placé ma confiance dans mon Dieu. Je riais, mais maintenant, s'il pouvait revenir d'entre les morts, s'il pouvait y avoir quelque chose de spectaculaire, à vous aimer les choses spectaculaires. Abraham dit, si même il y avait un mort là, qui revenait au milieu de nous, dans cette réunion cet après-midi. Il y a des cœurs qui sont tellement pétris par l'incrédulité ambiante qu'ils ne le croiraient pas. Mais je crois dans le ministère puissant du Saint-Esprit qui accompagne la prédication de l'Évangile afin de toucher les cœurs, afin de convaincre les cœurs, afin de les bouleverser. Et je crois que cet après-midi, si un cœur est incrédule, il peut s'ouvrir à la prédication de l'Évangile. Ce riche dit, j'ai 5 frères, envoie-leur un message afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Ça, ce sont les paroles de tous les athées, écoutez-moi bien, de tous les athées, de tous les philosophes qui se sont érigés en détracteurs de l'Évangile, de tous ceux qui ont dit « Dieu est mort, eux sont morts, Dieu est toujours sur son trône » et pour l'éternité, de ces gens qui ont essayé de démontrer que la Bible était un tissu de mensonges, ils sont passés, la Bible demeure et Jésus a dit qu'elle demeure pour l'éternité, alléluia. Tous ces gens qui sont partis dans l'éternité en refusant l'Évangile. C'est ça qu'ils disent maintenant. Si vous pouviez seulement entendre, si on pouvait créer une ouverture dans ce faux plafond, si tu pouvais simplement écouter les échos qui reviennent de ce que tu appelles l'au-delà, de ce que la Bible appelle l'éternité, au travers de ce texte, tu entendrais ce « souviens-toi ». Tu entendrais ce remords, tu entendrais ces cris, tu entendrais ces questions. Si tu pouvais écouter ce qu'ils disent aujourd'hui, tous ceux qui se sont levés contre Dieu ou l'Évangile, voilà ce que tu les entendrais dire. Je me suis trompé. J'ai fait fausse route. J'ai peut-être, par mon système de philosophie, entraîné des millions de personnes. J'ai peut-être, dans certains domaines, et il ne faut pas le leur enlever, produit des avancées énormes sur le plan scientifique, moral, etc. Mais spirituellement, j'étais à côté. Je me suis trompé. J'ai fait fausse route. Ceux qui sont restés là, il faut les prévenir. Ceux qui lisent mes livres, ceux qui scandent les slogans que j'ai créés, il faut les prévenir. C'est ce que ce riche est en train de dire. Père Abraham, j'ai vécu comme un insouciant, comme un insensé. L'insensé dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu. Ça l'arrange de dire qu'il n'y a pas de Dieu, ça veut dire qu'il n'aura pas de compte à rendre. Mais maintenant qu'il paraît devant le juste juge, maintenant qu'il est là dans l'éternité, il dit « Je me suis trompé !» Et tout ce que je leur ai dit, il faut leur dire que c'est faux. Il faut les prévenir. Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Ils sont avertis. Alors que dire à notre sujet ? Nous avons la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament. Si quelqu'un n'a pas la Bible, vous pouvez nous la demander à la fin de la réunion. Lisez la parole de Dieu. La foi vient de ce que l'on entend de la parole de Christ. Nous avons l'Ancien, nous avons le Nouveau Testament. Nous avons Jésus. Nous avons le témoignage des apôtres et de l'Église. Nous avons le témoignage du Saint-Esprit. Et puis nous avons l'opportunité répétée, pour certains depuis des années, d'entendre l'Évangile. Que notre responsabilité est grande. Considérez-la attentivement, cette responsabilité, afin de ne pas passer à côté du salut qui vous est aujourd'hui proposé. Je voudrais vous rappeler qu'il ne faut pas attendre d'entrer dans l'éternité pour se soucier du salut de ses proches. Je fais peut-être une parenthèse, mais peut-être qu'à la fin de cette réunion, on pourra avoir un moment, prier aussi pour nos familles, prier pour notre entourage, prier pour, je vois des jeunes là, ceux avec qui vous étudiez, avec qui vous travaillez, des hommes, des femmes, les gens qui évoluent dans votre voisinage, les voisins de l'église. On pourra prendre un moment, si vous le voulez, prier pour eux aussi. La Bible dit « Travaillez à votre salut et puis travaillez au salut de ceux qui vous entourent. » C'est maintenant qu'il faut leur parler de Jésus. C'est maintenant qu'il faut prier pour eux. Un jour, il sera trop tard. Demain soir, il y a une réunion, 20h. Mardi après-midi, 15h. Mardi soir, 20h. Mercredi soir, 20h. Je crois que tous les dimanches, c'est à 16h. Et puis toutes les semaines, en semaine aussi, il y a des réunions. Dieu ne va pas envoyer un ange. Dieu ne va pas envoyer Lazare pour parler à certaines personnes, parce qu'ils considèrent que ces personnes peuvent être averties. Mais comment seront-ils avertis s'il n'y a personne qui prêche ? Comment seront-ils avertis s'il n'y a personne qui témoigne ? Ton voisin de palier, cette personne avec qui tu travailles depuis tant d'années, elle ne sait même pas que tu es chrétien. Que le Seigneur nous aide à comprendre notre responsabilité. Amen. Je termine, je referme cette parenthèse et on va conclure dans quelques instants. En fait, le grand message aussi de l'Évangile, et on le voit dans ce récit, c'est qu'il y a un jour pour être sauvé. C'est quand ce jour, selon vous ? C'est aujourd'hui. Et il ne faut pas remettre à plus tard la décision de se convertir. Aujourd'hui, c'est un jour de salut. Aujourd'hui, c'est un jour de grâce. Hier ? Ok, parlons pas d'hier. Il y a peut-être des opportunités qui ont été manquées. Mais Dieu te donne de vivre aujourd'hui. C'est qu'il te donne sa grâce, qu'il est prêt à te pardonner. Par contre, ne parlons pas non plus de demain. Ne fais pas l'erreur de dire demain peut-être. Car prononcer le plus tard, c'est s'exposer à un jour entendre trop tard de la bouche même du Seigneur. Vous remarquerez que cet homme riche, il n'est pas connu par son nom, contrairement à Lazare. On connaissait l'autre pour ce qu'il avait. Peut-être que Forbes l'avait mis sur la liste des grandes fortunes. Mais c'est bon de savoir que Dieu connaissait le nom d'un pauvre homme tel que Lazare. Et ça, je voudrais que ce soit un encouragement pour quelqu'un. Dieu te connaît, tu l'as entendu d'ailleurs tout à l'heure et ce matin également. Connaître Dieu et être connu de lui, voilà la vraie richesse, voilà le vrai trésor. Alors puis-je ajouter une quatrième question cet après-midi ? Connais-tu Jésus ? Le connais-tu personnellement ? Et puis, est-ce qu'il te connaît ? En sorte que tu peux dire, il est mon sauveur et que Dieu peut dire, c'est mon enfant. Peut-être qu'il est méprisé par les grands de ce monde, peut-être que pour certains c'est juste un numéro de sécurité sociale ou autre. Peut-être que c'est un nobody qui fera jamais la une des journaux, jamais il ne paraîtra à la télé. Peut-être qu'il s'en ira dans l'éternité sans qu'on fasse grand cas de lui parce qu'il n'a pas une grande famille. Mais moi je le connais, c'est mon enfant, ça c'est précieux. Est-ce que tu le connais ou est-ce que tu cours le risque ? Comme Jésus nous le dit dans plusieurs paraboles, de l'entendre un jour te répondre. Alors que tu désireras entrer dans le ciel, je ne t'ai jamais connu, retire-toi de moi, que ce sera terrible. Il sera trop tard, alors qu'aujourd'hui le Seigneur se laisse trouver par tous ceux qui le cherchent sincèrement. En fait, avec ce texte, c'est un véritable drame que Jésus nous rapporte. Il lève un instant le voile sur l'éternité, il nous révèle les tourments de cet homme riche, pauvre, fou, que cet homme doué en affaires, mais qui a négligé la grande affaire de sa vie. Pauvre fou, que cet homme tellement riche en apparence et pourtant si privé de tout dans l'éternité, tellement riche et pourtant tellement pauvre. Pauvre fou, que cet homme qui a attendu de se retrouver dans l'éternité pour réaliser à quel point il avait gâché sa vie. Ce drame, faites en sorte que ce ne soit pas le vôtre également. C'est pourquoi aujourd'hui, alors que je vous invite à vous recueillir, à fermer les yeux, convertissez-vous. On le dit sans détour, repentez-vous. Ça veut dire abandonnez votre péché. On n'est pas là pour vous accuser, pour le diable est l'accusateur. Votre conscience vous accuse suffisamment. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur. Convertissez-vous cet après-midi. Confiez votre vie à Jésus, recevez la vie éternelle C'est à cela que vous êtes appelés. Jeune homme, jeune fille, c'est à cela que Dieu t'appelle, à la vie éternelle en Jésus-Christ. On va prier, et vous savez, ce moment, il est important. Dans ce texte, on a lu au verset 23 que c'est une fois mort que le riche a levé les yeux. Au verset 27, c'est une fois mort que le riche a prié. Et je me dis, mais pourquoi est-ce qu'il ne l'avait pas fait plus tôt? Pourquoi est-ce qu'il ne l'avait pas fait plus tôt? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas pris le temps plus tôt de lever les yeux vers le ciel? Pourquoi est-ce que plus tôt, il n'a pas pris le temps de s'adresser à Dieu? Tellement occupé par ses affaires, par son style de vie, tellement insouciant, comme on peut l'être en se disant « j'ai toute la vie devant moi ». À vous qui m'avez écouté, je voudrais dire « pensez à votre éternité maintenant, levez les yeux, tournez-vous vers le Seigneur et on va prier ensemble. Amen. » Je voudrais vous dire « c'est pas le moment maintenant de se lever, s'il vous plaît. C'est pas le moment d'aller aux toilettes, s'il vous plaît. C'est pas le moment de fermer son sac et de penser à ce que vous allez faire dans quelques instants. Maintenant, là. » Il y a deux cas. Soit tu n'es pas encore sauvé et tu as besoin désespérément de Jésus-Christ. Et c'est un moment que tu dois saisir par la foi. Ou deuxièmement, tu as déjà expérimenté le salut. Alors je voudrais que tu pries pour quelqu'un dans cette salle qui a besoin d'être sauvé. On peut le faire ensemble ? Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Ta parole est la vérité.